La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Malouf, je travaille à l'église baptiste Toulouse Métropole et je suis content de passer ce temps avec vous. On se pose souvent beaucoup de questions et une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est comment connaître le plein pardon? Comment être certain de connaître le repos pour notre âme? Et au fond, ces deux questions se résument en une seule. Comment être certain d'être sauvé? C'est peut-être la question la plus réfléchie par l'humanité. Mais certains vont la réfléchir silencieusement, d'autres vont la matérialiser par une quête de transcendance, et peut-être d'autres encore espérant la science pour tenter d'expliquer ou contourner la mort. Et au final, ce problème de la mort, il demeure. Malgré toutes nos réflexions, la mort est toujours là, et derrière la mort se cache le problème de notre rébellion face à la main de Dieu, cette main de bonté qui est tendue par notre Créateur, et dont nous sommes indifférents. Dans l'évangile selon Matthieu, nous y lisons l'inauguration du royaume de ce roi pas comme les autres, Jésus, et on constate que ce roi a déjà fait une démonstration de son autorité en parole et en acte par les nombreux miracles qu'il a opérés. Et c'est comme si une lumière vient briller dans les ténèbres de notre humanité en Jésus-Christ. Mais on aime la lumière parce qu'elle nous réchauffe, mais on peut aussi avoir tendance à la fuir parce qu'elle met en lumière nos taches d'ombre. Alors oui, nous verrons que cette lumière du royaume va susciter une vive opposition dans le chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Mais dans cette opposition, nous verrons le cœur de ce roi unique, comment il fonctionne, ce cœur de Jésus, dans un contexte d'opposition, comment aussi ce roi va nous inviter à nouveau. On va voir l'invitation qu'il nous adresse dans la suite des versets, mais d'abord il y aura une vive opposition, et voilà un petit peu les reproches de Jésus. Premièrement, je lis Matthieu chapitre 11 à partir des versets 16 jusqu'à la fin du chapitre. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jusqu'ici, nous avons la lecture de la parole de Dieu, et je voudrais voir avec vous, premièrement, que ce que nous reproche Jésus, c'est notre indifférence. Une indifférence d'abord face à l'annonce du jugement qui allait venir. L'annonce du jugement et l'appel à la repentance de Jean-Baptiste. Elle n'a pas plu, ces annonces n'ont pas plu. Le baptême de repentance auquel il appelait les foules n'a pas plu et il a fini en prison en partie parce que ça ne plaisait pas. Et ça ne plaît toujours pas aujourd'hui, un tel discours. Parce que notre cœur est rebelle à Dieu, nous n'avons pas envie d'entendre ces choses et nous voulons plutôt les évacuer de notre vie. Évacuer tout ce qui peut nous rappeler de près ou de loin un jugement. La correction, une mesure de discipline, peut-être parfois même les épreuves qui nous rappellent la mort à venir, tout cela ne plaît pas. Et c'est dans un certain sens légitime. C'est en apparence et à première vue en tout cas des mauvaises choses. Mais éviter de réfléchir à ces réalités ne nous sauvera pas. C'est qui peut penser, qui pense réellement que le fait de s'écrier « ne parlons pas de malheur » avant un examen médical pourrait protéger d'un éventuel malheur ? Mais il y a une deuxième indifférence que Jésus relève, et c'est ce que nous avons lu. Une fois qu'on accepte la réalité du jugement, eh bien, on peut voir comment ce jugement se déroulera. Voyez le reproche que Jésus fait aux villes de Capernaum, Chorazin et Bethsaïda. Il affirme qu'au jour du jugement, il y a d'autres villes, comme Tyr, bien qu'elle soit connue pour son arrogance, l'arrogance de son roi, comme la ville de Sidon aussi, connue pour l'idolâtrie d'Israël, ou encore Sodome, que tout le monde sait être un type de la méchanceté par excellence, de l'immoralité, de la violence. Cette ville sera détruite en Genèse chapitre 19. Et bien ces trois villes, d'après Jésus, seront traitées moins rigoureusement lors du jugement. Alors pourquoi Jésus parle d'un jugement bien plus terrible sur une ville tranquille comme Capernaum ? En fait, le jugement, il est lié à ce que la ville a reçu de Dieu. Ici, les trois villes blâmées, elles se trouvent en Galilée, là où Jésus avait enseigné et fait de nombreux miracles. La gloire de Dieu y avait été particulièrement manifestée. Ces trois villes avaient reçu une plus grande part de révélation que Tyr, Sidon ou Sodome. C'est en ce sens que Jésus les condamne. Jésus n'est pas en train de dire que la méchanceté de Sodome ne sera pas jugée, il est plutôt en train de donner des degrés de jugement et que ce qui détermine le degré de jugement, c'est notre réaction face à tout ce qui nous a été révélé de la part de Dieu. Sodome avait mal agi, oui, mais le péché de Capernaum était plus grand, dans le sens qu'elle avait reçu énormément du royaume de Dieu et qu'elle était restée stoïque et indifférente à cette révélation. Pour être sauvé du jugement, il ne s'agit pas d'inventer un sauveur, mais plutôt de constater qu'il existe bel et bien un Dieu libérateur et que lorsque celui-ci frappera, eh bien, on a le choix de lui ouvrir la porte à ce Dieu libérateur, à constater ce qu'il a à nous dire, plutôt que de rester campé sur nos positions et de rester dans notre indifférence à son égard. C'est là une preuve de sagesse que d'écouter ce qu'il a à dire. Les chefs religieux du temps de Jésus étaient bouleversés parce que les règles et les valeurs du royaume que Jésus annonce sont tellement différentes de leurs règles, les règles qu'ils imposaient au peuple, et ils savaient quelque part que ce qu'ils recevaient de Jésus bouleversait tout leur fonctionnement. Ça remettait clairement en question leurs privilèges et leurs enseignements. En fait, ça remettait en question tout ce sur quoi ils avaient bâti leur vie. Et nous, aujourd'hui, sur quoi avons-nous construit notre identité et notre valeur ? Peut-être sommes-nous fiers de notre carrière, de notre réputation ? Peut-être nous avons hâte de raconter à tous notre vie de famille réussie ? Peut-être nous aimons nous vanter de nos performances sportives ou artistiques ? Ou encore les nombreux talents de nos enfants ou petits-enfants ? Pourquoi avons-nous tant de mal à placer notre fierté en Dieu? Pourquoi notre plus grande fierté n'est pas de connaître Dieu? En fait, nous le voyons si peu comme notre fierté parce que nous préférons regarder à nous. Et c'est précisément parce que nous avons du mal à lui rendre toute la gloire que nous avons aussi du mal à voir que son salut est accompli et à goûter combien il est reposant ce salut, dès aujourd'hui pour nous. Pourquoi sommes-nous si aveugles à ce sujet? Eh bien, une des réponses de Jésus se trouve dans les versets 25 à 30 que nous avons lus, je vous les relis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est comme ça que le Père Céleste fonctionne. En fait, nous apprenons dans ces versets une vérité importante. C'est Dieu l'auteur du salut, et c'est donc seulement lui qui peut nous ouvrir les yeux sur le royaume. On sait ici que le Père et le Fils travaillent ensemble à révéler le royaume céleste. Il y a une certaine attitude de cœur, du coup, qui peut nous éloigner du royaume, qui peut nous aveugler sur la réalité de ce royaume, et dont il nous faut nous repentir pour nous approcher de Dieu et le voir. L'attitude qui nous éloigne de la gloire de Dieu, de ce royaume glorieux, de ce royaume céleste, c'est l'attitude que j'appellerais du voleur de gloire. Souvenez-vous, lorsque Jésus donnait son discours sur la montagne, au chapitre 6, verset 1, il disait aux chefs religieux notamment « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » En fait, c'est plus précisément, il disait ça à ses disciples. Il sous-entendait la pratique des chefs religieux ici. Certains chefs religieux ne pouvaient s'empêcher de pratiquer leur justice devant les hommes pour en être vus. Et ici, Jésus reproche une telle attitude. C'est l'attitude du voleur de gloire. C'est celui qui doit justifier de sa valeur et de son salut par ses propres pratiques publiques. Il trouve son identité et sa valeur dans le regard des autres, dans les applaudissements, la notoriété qu'il a. Mais il a la faveur des hommes, quelque part, et cela lui suffit. Sa récompense, il l'a déjà, va dire Jésus. En pratiquant une telle religiosité, il ne veut pas de Jésus comme récompense, il ne veut pas connaître en intimité cet ami qui est Jésus, mais il veut simplement utiliser le nom de Dieu à ses propres fins, à son avantage. Mais il y a un problème. Quand Dieu est utilisé pour ma propre gloire, il n'est donc pas adoré. En fait, on vole constamment la gloire de Dieu pour nous l'attribuer. C'est un peu comme si un fan, lors d'un concert de son artiste préféré, s'approchait de lui dans la zone de dédicace à la fin et qui n'échangeait pas un mot avec son artiste. Il ne lui pose aucune question. Mais il prend simplement un selfie, puis publie la photo sur les réseaux sociaux instantanément. Le fan n'aime pas forcément l'artiste ici, mais il s'aime lui-même. Il profite de la visibilité de cet artiste pour que la gloire de cet artiste, quelque part, éclabousse un peu sur lui. C'est exactement l'attitude du voleur de gloire. Être proche de Jésus sans jamais chercher à le connaître, profiter de la popularité de Jésus, mais ne cherchant pas l'intimité, l'amitié avec Jésus. Et c'est vrai, cette attitude, elle doit être corrigée chez nous si nous voulons voir Dieu tel qu'il est, tel qu'il se révèle. C'est à Dieu qu'appartient la gloire de se révéler à nous. D'ailleurs, certains théologiens parlent du cadeau de la révélation, j'aime bien comment ils en parlent. Dietrich Bonhoeffer dit « Dieu ne se révèle pas pour satisfaire la curiosité humaine, mais pour entrer en relation. » Dieu veut une relation avec nous. Et Karl Barth, au sujet de la révélation, du don de la révélation, va dire « Dieu se fait connaître parce qu'il le veut et parce qu'il est amour. La révélation n'est pas une nécessité pour Dieu, mais un don. » C'est vrai, non seulement Dieu se plaît à se révéler à nous, mais il veut aussi nous faire profiter de sa personne dans une relation d'amitié. Et voici, je vous lis le verset 28. À partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je voudrais d'abord regarder ce que le joug n'est pas pour constater ensuite ce qu'il est réellement. Tout ce qui me pèse n'est pas forcément un joug, en tout cas n'est pas forcément un mauvais joug. Nous avons tendance à nous centrer sur nous en nous posant la question de qu'est-ce qu'est le joug et en déduisant de manière très arrangeante que la moindre chose qui me pèse serait un joug mauvais dont il est question, dont il faudrait me débarrasser ici. Mais il ne s'agit pas là de chercher ce qui me pèse de mes responsabilités et de déduire précipitamment que si ça me pèse, c'est donc un mauvais joug. Il faut d'abord examiner la nature de ce qui me pèse. Prenons l'exemple d'une amende que je reçois pour excès de vitesse. Ça me pèse dans un sens, et vous comprenez bien pourquoi. Mais ce n'est pas en soi un mauvais joug. C'est seulement les conséquences logiques de mon excès de vitesse et dont j'ai la responsabilité, dont je dois assumer la somme. Ensuite, pour continuer à discerner si c'est un mauvais joug, je me pose la question suivante. Est-ce qu'en me débarrassant de cette responsabilité, j'obéis ou je désobéis à Dieu? Dans le cas de l'exemple, si je me débarrasse de mon amende en l'oubliant au fond d'un tiroir, sans m'en acquitter, j'ai une dette envers le trésor public et je ne respecte pas les autorités de mon pays, ce qui est un cas de désobéissance explicite. Et de la même façon, il peut être coûteux ou pesant d'aller vers une démarche de pardon. Peut-être je dois pardonner à celui qui m'a offensé récemment, mais je ne peux pas dire que parce que ça me pèse, c'est donc un mauvais joug, c'est donc pas la volonté du Seigneur. Nous savons le cœur du Seigneur à nous pardonner et nous savons qu'il nous appelle à s'associer à sa volonté et à imiter et à l'imiter dans la démarche de pardon. Lui qui a pardonné des ennemis, les ennemis que nous étions, il veut aussi que nous apprenions à pardonner ceux qui nous ont offensés pour ne pas garder rancune. Et pour manifester sa grâce envers d'autres. Donc ce petit exercice de discernement nous permet de mettre de la nuance dans notre théologie pratique au sujet de ce joug que Jésus veut nous enseigner à porter. Voyons maintenant plus concrètement ce que peut être le joug. Le joug, aussi traduit par les exigences dans certaines Bibles, en agriculture d'abord, le joug c'est une pièce de bois qui permet d'atteler le bétail. Deux bêtes pouvaient être alors reliées et marcher au même rythme et dans la même direction grâce au joug. Et lorsque Jésus nous invite à prendre son joug, c'est donc une façon de dire « Liez-vous à moi, marchez avec moi, au même rythme que moi. » C'est une idée d'alliance. Et il continue en nous donnant la raison. Pourquoi quelle est la bonne raison de nous lier à lui ? Eh bien, il le dit, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est une bonne raison de s'attacher à lui, il est doux et humble de cœur. Et c'est logique alors que le fardeau que Jésus nous fait porter soit doux. Puisque si le cœur du maître est doux, tout ce qui émane de lui va l'être tout autant. L'intention profonde de Jésus à notre égard, c'est que nous venions à lui, et que nous nous laissions enseigner, diriger par lui. Il veut nous enseigner d'abord qu'il est un maître doux. Il veut nous enseigner qui il est profondément. Il veut nous faire connaître ici son cœur, dans toute sa profondeur et dans toute sa beauté. Il n'est donc pas le maître qui fait peser la culpabilité des fautes. Il n'est pas le genre de maître qui se targue de son autorité pour accabler et condamner. Il a pourtant toute autorité, il l'a prouvé, nous rappelons ses divers miracles, ses nombreuses guérisons et même la maîtrise qu'il a devant la tempête devant la mort. il a ressuscité les morts. Jésus a toute autorité en tant que fils de Dieu. Il est le roi au centre du royaume, mais il n'est pas un roi comme les autres. Il est un roi qui utilise sa puissance avec douceur pour relever le faible, pour inviter à sa table le marginalisé, le moqué, et pour en prendre soin. Il veut nous faire marcher avec lui comme un ami à nos côtés. Il est cet ami à nos côtés. Et un ami qui sait plaider notre cause lorsque nous sommes accusés ou lorsque nous chutons. Il est un avocat en plus d'être un ami. En Jésus, homme parfait, nous avons Dieu incarné. Le Fils avait tout pouvoir pour faire exécuter l'humanité pécheresse. Donc, vous et moi. Mais au lieu de ça, il a pris sur lui le jugement. Sur cette croix, il a payé lui-même la dette. Et donc avec quel sacrifice ? Bien celui de son propre corps. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour des gens qui ne méritaient pas un tel ami. C'est l'invitation de l'évangile, le pardon offert par Jésus. C'est en ça que Jésus est l'ami des pécheurs. L'opposition était telle que certains se moquaient de Jésus, l'ami des pécheurs. Certains vont rester indifférents à cette invitation, d'autres vont y voir leur seul secours pour le repos de leur âme. C'est vrai, les contemporains de Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, avaient un cœur opposé pour certains. Certains n'étaient pas prêts à voir en lui le Messie qui devait venir. Peut-être avait-il de grands préjugés au sujet du royaume de Dieu, de sa justice, qui empêchait de voir que Jésus accomplissait la justice de Dieu. Mais à l'inverse, ceux qui prenaient les instructions de Jésus au sérieux découvraient en lui un ami, découvraient en ses exigences des commandements qui étaient tout l'inverse de pénibles, mais qui réconfortaient le cœur, qui donnaient la joie, qui menaient au salut. Le cœur de Jésus si doux faisait que l'obéissance à ses instructions était un sujet de joie, un sujet d'épanouissement, d'enthousiasme. Le repos, ce n'est pas la paresse ou la désobéissance, mais c'est de voir en Jésus le seul maître qui doit être écouté. Parce que ce maître-là est doux et humble de cœur, et travailler pour lui et avec lui, c'est là le repos dont notre âme a besoin. Nous connaissons en Jésus un ami, si nous savons errant sans lui. Ceux qui ne connaissaient pas un tel repos criaient avec condescendance, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Pour ceux qui se savent pécheurs, cette vérité est une bonne nouvelle. Oui, je crois qu'il est l'ami des gens de mauvaise vie, et je sais qu'il est mon ami parce que je suis de ces gens-là. Je fais partie des pécheurs. Alors oui, c'est une bonne nouvelle pour moi que Jésus s'est fait l'ami de ses ennemis, de ceux qui étaient indifférents à lui. Je commence à compter tous ces jours qui se suivent, se ressemblent et me fuient. Toute ma vie me fuit.
Il est mort pour mes péchés, celui qui m'a tant aimé lui-même s'est offert pour moi, crucifié sur cette croix.
Je ne puis échapper aux terreurs de mes nuits. Je te supplie, ô Dieu, fais silence dans ce bruit.
Il est mort pour mes péchés, celui qui m'a tant aimé lui-même s'est offert pour moi, crucifié sur cette croix. Vainqueur de la mort, il vit et règne pour l'éternité. À sa suite, je veux marcher, faire de sa gloire toute ma fierté.